Vous écoutez
RMC. RMC Charles Matin.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Donald Trump inculpé cette nuit aux États-Unis. L'ancien président américain va comparaître en début de semaine prochaine pour une vieille affaire qui remonte à 2016. Des milliers de personnes hier soir devant les préfectures partout en France pour dénoncer les violences policières. C'était l'objet de l'appel des commissariats endommagés à Lyon et Marseille. Cette interpellation à Paris. Et les pénuries de carburant de plus en plus visibles ce matin autour de Paris. Une station sur trois désormais sous tension dans la capitale.
Et puis Apolline arrive. Apolline Matin, ça commence dans quelques minutes sur RMC. Et puis tiens, avant 6h30, on va vous raconter comment Neymar a perdu 1 million d'euros au casino. Vous saurez tout dans la Story Sport. Donald Trump va donc devoir s'expliquer devant la justice américaine.
Et c'est une première pour un ancien président américain. Donald Trump inculpé dans une vieille affaire d'achat de silence d'une star du porno qui remonte à 2016. Romain Houg, on a suivi ce qui s'est passé toute la nuit aux États-Unis pour RMC. Il va même devoir se rendre.
Oui, son avocat indique ce matin que l'ancien président va se rendre de lui-même mardi devant la justice new-yorkaise où il sera formellement notifié de son inculpation. Décision prise par un grand jury composé d'un panel de citoyens après avoir entendu notamment plusieurs témoins. Alors, les charges contre Donald Trump, elles n'ont pas été rendues publiques, mais concrètement, ce que l'on sait, c'est qu'il est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice pornographique juste avant sa victoire à la présidentielle de 2016, versement de 130 000 dollars, à peu près 120 000 euros pour qu'elle taise une supposée relation extra-conjugale 10 ans plus tôt. Et ce qui pose problème, c'est que l'ancien président aurait utilisé de manière illégale des fonds de sa campagne, ce qu'il nie fermement. Donald Trump dénonce une escroquerie, une ingérence électorale orchestrée par des voyous avant la présidentielle de 2024, à laquelle il s'est d'ores et déjà déclaré candidat. L'ancien président avait déjà annoncé il y a 15 jours son arrestation et avait appelé à des manifestations dans tout le pays.
Il est 6h02 sur RMC. Des milliers de personnes donc rassemblées hier soir devant les préfectures dans les grandes villes de France contre les violences policières. C'était l'objet de l'appel de la part des organisations de la manifestation de Sainte-Soline le week-end dernier. 4500 personnes à Paris, 3000 à Lyon, 1000 à Nantes, des centaines aussi à Lille, à Marseille ou comme ici à Rennes. Voilà, vous entendez les manifestants à Rennes, soirée qui a dégénéré à Paris, cette interpellation. À Lyon et Marseille aussi, des commissariats endommagés et deux interpellations. On a appris dans la soirée que l'un des deux manifestants gravement blessé était sorti du coma et que la défenseure des droits se saisissait de ces deux dossiers pour lesquels les familles ont porté plainte. Et c'est dans ce contexte de crise, de guerre de l'eau qu'Emmanuel Macron a présenté hier au bord du lac de Serre-Ponçon. 53 mesures pour réduire de 10% l'eau consommée en France d'ici 2030. On est à 1% aujourd'hui. Réparation des fuites sur le réseau, tarification progressive comme dans la région de Montpellier pour pénaliser les gros consommateurs et réutilisation de 10% des eaux usées. Écoutez ce que dit le président.
Ce plan eau, donc avec sa cinquantaine de mesures, c'est avant tout un plan de sobriété et d'efficacité pour l'eau dans la durée. Je veux pour ça fixer un cap à notre nation avec un objectif pour 2030 qui est de faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs. C'est une modernisation sans précédent de notre politique de l'eau. Le changement climatique va nous priver de 30 à 40% de l'eau disponible dans notre pays à l'horizon 2050. Et donc nous devons inscrire la sobriété dans la durée.
Aucune mesure contraignante pour les agriculteurs qui consomment pourtant 58% de l'eau en France. Le président a été accueilli hier au lac de Serre-Ponçon, comme prévu par une centaine de manifestants opposés à la réforme des retraites. Deux ont été interpellés. Il y a du mieux ce matin dans les stations-service, conséquence là de la grève des raffineurs, qui ont grève reconduite par exemple dans la plus grande raffinerie de France à Gonfreville hier. 11% des stations sont sous tension au niveau national, c'était 15% depuis une dizaine de jours, ça s'améliore donc, mais avec des disparités régionales, ça reste très compliqué dans le sud-est, dans le grand ouest et en région parisienne. Paris est passé d'un quart à un tiers des stations sous tension, la preuve avec Nicolas Repère et Margot Boult pour RMC.
Avec son scooter qu'il utilise tous les jours, Vincent n'a pas attendu les pénuries d'essence pour anticiper.
Quand les syndicats ont commencé à annoncer qu'ils allaient bloquer les raffineries, j'ai fait un peu de réserve. J'ai pris un bidon de 20 litres d'essence que j'avais dans mon garage et puis je l'ai rempli de sans-plomb.
Mais pour ceux qui roulent beaucoup, comme Mathilde, depuis plusieurs jours, c'est le retour des longues files d'attente à la station essence.
Le soir, à 22h, si c'est réalimenté, il peut y avoir 1 km de queue. Quasiment 2h30 de queue.
Alors, pas le choix. Bruno est obligé de limiter certains de ses déplacements.
On va travailler, on revient, on fait rien d'autre, en fait. Les loisirs, là, pour l'instant, on va faire un peu attention à tout ça.
Le département du Val-de-Marne est désormais le plus touché en France, avec près d'une station sur deux en manque de carburant. pompiste à Saint-Maur, Johan voit bien que ses clients sont de plus en plus tendus.
Dès qu'on est réapprévisionné, il y a la panique, tout le monde est pressé, ça s'arrête pas, quoi, ça s'enchaîne. Tout le monde vient pour demander est-ce qu'il y a du carburant, quand on sera livré.
Le prochain approvisionnement est prévu dans la journée, sauf si, comme la semaine dernière, la livraison est annulée par manque de stock.
Et en pleine contestation de la réforme des retraites, hein, tous les projecteurs sont braqués ce matin vers Clermont-Ferrand, où la CGT est toujours réunie en congrès pour désigner le ou la personne qui remplacera Philippe Martinez. Certains dans le syndicat n'ont pas dormi de la nuit pour discuter, c'est toujours en cours. Victor Jonin pour RMC, vous nous dites que deux lignes s'affrontent au sein du syndicat et que c'est celle de Philippe Martinez qui est finalement en train de prendre le dessus.
Le document d'orientation, c'est-à-dire le programme politique de la CGT pour les trois ans à venir, a finalement été adopté à 73% des voix. Après des débats houleux et plus de 5000 amendements, autant de compromis consentis par la direction sortante pour parvenir à rallier une large majorité. C'est une CGT plus ouverte qui l'emporte, jubile un soutien de Philippe Martinez. Et ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort qui représentent le Congrès, ajoute-t-il en référence aux interventions tonitruantes des opposants favorables à une ligne plus identitaire et plus radicale. Dans leur camp, les visages sont fermés, leur favori Olivier Matteux a été mis hors jeu et c'est désormais le nom de la candidate adoubée par Philippe Martinez, Marie Buisson, qui revient le plus dans les allées de la grande halle de Clermont-Ferrand. Mais les tractations continuent et un membre du comité confédéral national, l'instance chargée du vote final, n'exclut pas une surprise.
À 6h06 sur RMC, c'est la fin d'un interminable feuilleton. Les soignants non vaccinés au Covid vont pouvoir retourner à l'hôpital. Le ministère de la Santé va suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé sans même atteindre l'avis du Conseil d'éthique. Eux qui étaient suspendus, les soignants, et qui ne touchaient plus leur salaire depuis un an et demi. Écoutez, expliquez-nous les raisons de ce revirement, Cyprien Pézeril du service politique à RMC.
Des contaminations au plus bas et des variants moins virulents. Voilà ce qui motive l'avis de la Haute Autorité de Santé. En réalité, l'immense majorité des soignants sont vaccinés. Peu de professionnels sont donc concernés par ces réintégrations. 0,3% des agents hospitaliers, principalement en Outre-mer, et moins de 2000 soignants libéraux. Ces retours pourront avoir lieu dans les prochains jours ou tout au plus les prochaines semaines, le temps que le ministre de la Santé engage une concertation pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et cela, eh bien, ça n'aura rien d'évident puisque beaucoup de soignants sont hostiles à la réintégration de leurs collègues qui ont refusé le vaccin pendant la pandémie. Enfin, si le contexte a bel et bien changé, la vaccination des soignants est toujours fortement recommandée. C'est ce qui a permis de sauver des milliers de vies, rappelle-t-on au ministère de la Santé.
J'ai deux infos football à vous donner ce matin. D'abord, Hervé Renard, nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, s'est confirmé pour la Coupe du Monde dans 4 mois et pour les Jeux Olympiques l'année prochaine en France. Il annoncera sa première liste d'ailleurs des bleus sélectionnés dans l'après-midi. Le foot féminin d'ailleurs qui va pas très fort avec l'élimination de Lyon et de Paris hier soir en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Lyonnaises tenantes du titre sorties au tir au but par Chelsea. Les Parisiennes éliminées après un nul qui ne suffit pas contre un partout contre Wolfsburg. C'est la première fois depuis 2014 qu'il n'y a plus d'équipe française en demi-finale.
C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC et RMC Story. Il est 6h08.